Philippe vous présente Alternative, une émission différente et pas pareille, qui vous parle des grands défis de notre monde. Une semaine sur deux, le mercredi à 13h30.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lors de notre dernière mission, je vous ai parlé des plantes, de leur synthèse chimique qui pouvait servir dans la médecine humaine. Et voyons comment aujourd'hui la phytothérapie peut être une alternative à la maîtrise des dépenses de santé. Alors tout d'abord un peu d'histoire. Le système de protection sociale est issu du plan élaboré par le Conseil national de la résistance. Les ordonnances de 1945 généralise et uniformise les prestations qui sont financées par les cotisations des employeurs et des salariés. C'est un financement qui repose essentiellement sur un mécanisme d'assurance payé par les actifs. Elle est générée par l'ensemble des partenaires sociaux, syndicats et organismes patronaux. Il faut savoir qu'au dire de l'OMS, le système français est le meilleur système de protection sociale au monde. Malheureusement, et pour des raisons qui seraient trop longues d'exposer ici, ce système a subi de nombreuses réformes au cours du temps qui nuisent finalement à son efficacité et qui risquent à terme de le transformer en un système à deux vitesses qui est en totale contradiction avec les idéaux du Conseil national de la résistance. D'une part, face à la croissance des besoins sociaux, à la réduction des recettes dues au problème du chômage, au consumérisme qui touche bien évidemment la santé et l'ère du tout chimique qui augmente le risque iatrogène. Le risque iatrogène, c'est les complications médicales qui sont causées par l'abus des médicaments. Alors donc, à cause de l'augmentation donc du risque iatrogène, les pollutions et les résistances aux antibiotiques, force est de constater que notre système de santé est bien malade. Pourtant, il faut savoir que des améliorations pourraient être apportées face à un certain consumérisme médical et à l'industrie pharmaceutique déclinante en ce qui concerne toutefois les pathologies courantes. À cet égard, la phytoaromathérapie qui se développe actuellement est capable d'apporter des solutions pour la prise en charge des affections courantes. Bien évidemment, pour les affections graves, on se rabat sur les médecines classiques, bien évidemment. Donc la phytothérapie n'a pas vocation à soigner, par exemple, le sida ou les cancers. Alors, force est de constater en France que l'industrie pharmaceutique ne découvre plus grand-chose. C'est paradoxal, mais bon, c'est comme ça. En effet, depuis une trentaine d'années, les deux seules avancées majeures en médecine générale l'ont été dans le domaine, premièrement, de l'hypertension artérielle avec les fameux IEC, qui sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, et en gastro-entérologie avec ce qu'on appelle les IPP, inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont des produits utilisés contre les ulcères et les aigreurs d'estomac. Ce sont ces deux produits qui ont été mis en... Ça a été une petite révolution thérapeutique dans ces dernières années. Mais combien de médicaments antidiabétiques ont été mis au point ces dernières années, par exemple par le laboratoire Merck, longtemps en pointe dans ce domaine? Aucun. Par contre, l'industrie a dû faire face à de retentissants scandales, celui du Mediator, médicament utilisé à tort et à travers pour le grand bénéfice du laboratoire Servier, et celui du Vioxx, ce dangereux anti-inflammatoire des laboratoires MSD. On est donc aussi en droit de s'interroger sur l'avenir de l'innovation thérapeutique, car le rythme de cette innovation n'est pas à la hauteur des investissements considérables. Elle n'a pu dépasser entre 2000 et 2010 le rythme qu'on enregistrait 50 ans auparavant, soit une moyenne de 50 entités chimiques mises sur le marché chaque année. Cette tendance est d'autant plus inquiétante que le fonds déployé ne cesse de progresser. C'est les dépenses du marketing qui flambent. Alors $1 million était nécessaire, par exemple, en 1950 pour développer un médicament, il en coûtait en 2005, 1,5 milliard. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le site pharmaceutique.com. Les innovations thérapeutiques ne cessent de baisser. de 52 innovations thérapeutiques en 2004 contre 35 en 2010 et l'hémorragie continue. D'autre part, il est de plus en plus difficile d'apporter du progrès dans certaines grandes pathologies, l'hypertension artérielle, le diabète, contre lesquels il existe déjà de nombreux médicaments et les laboratoires se tournent alors vers des secteurs plus prometteurs comme la cancérologie, l'hématologie ou les maladies rares. Les traitements de ces maladies ont une forte valeur ajoutée, mais ils sont moins couramment utilisés au sein de la population générale. Pour les pathologies courantes et à cause de l'innovation en berne, l'industrie est alors obligée de consacrer de plus en plus de fonds dédiés au marketing, d'emballer le produit avec dans des boîtes de plus en plus luxueuses, en d'autres termes, ce qui augmente bien évidemment le prix des nouveaux produits mis sur le marché pour des avancées thérapeutiques mineures, ce qui grève encore un peu plus le budget de la sécurité sociale. Alors, selon le journal Le Monde du 27/5/2013, la France est le pays européen qui consomme le plus de médicaments sans justification objective, car faut savoir que les Français ne sont pas en moins bonne santé que leurs voisins. 9 consultations sur 10 donnent lieu à une ordonnance. Le médecin qui ne donne pas de médicaments, c'est considéré par le patient souvent comme un charlatan. Les patients s'attendent souvent à une prescription et certains médecins ont du mal à ne pas répondre à la demande. C'est aussi une des conséquences du consumérisme qui touche aussi les cabinets médicaux. Un des problèmes qui est dû aussi à la surconsommation médicale, c'est ce qu'on appelle la iatrogénie. La iatrogénie, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est les effets secondaires, en quelque sorte, qui sont dus aux médicaments. C'est toutes les pathologies qui sont développées à cause de la prise de médicaments. Les personnes de plus de 65 ans, qui représentent plus de 20% de la population actuellement, consomment plus de 40% des médicaments, ce qui est énorme. Et les personnes de plus de 80 ans représentent 11,9% de la consommation médicale. Bon, si l'âge en lui-même ne paraît pas être un facteur de risque indépendant d'accidents iatrogéniques, la polymédication, elle, peut être incriminée. Il est difficile, malgré tout, d'estimer véritablement l'incidence, la gravité et l'évitabilité de la iatrogénie dans cette tranche d'âge, car malheureusement, les études menées en ce sens depuis 20 ans sont trop petites. Cependant, il faut savoir qu'une analyse estime à 16,6% le taux d'hospitalisation moyen dû à un problème médicamenteux chez la personne âgée. C'est énorme. Et ça peut être évité. Une étude prospective française effectuée sur 2814 patients âgés de 70 ans ou plus retrouve plus de 500 effets indésirables médicamenteux lors de l'admission à l'hôpital. Les produits les plus impliqués étant les médicaments de la sphère cardiovasculaire et les psychotropes. Les psychotropes sont les médicaments pour dormir, les anxiolytiques, les antidépresseurs. Voilà, merci. Et il s'agit donc d'un problème de santé publique très important et qui pèse pour une part importante dans les dépenses de la santé. En France, ce problème représente donc un coût économique et humain considérable. Chaque année, sachez que la iatrogénie médicamenteuse serait responsable d'environ 130 000 hospitalisations et de 10 à 12 000 décès pour un coût global de 320 millions d'euros. La France est en troisième rang mondial pour la consommation des psychotropes après la Belgique et le Portugal. La prise des psychotropes n'est pas anodine. Il faut savoir qu'elle entraîne de la dépendance, c'est une véritable toxicomanie, des troubles du comportement, des amnésies et des risques de chute. C'est grave pour les personnes âgées, ça coûte parfois un col du fémur. Ces risques sont plus importants donc chez les personnes âgées parce que ces produits sont aussi plus longs à évacuer. Ils restent plus longtemps dans la circulation. À tous ces problèmes aussi, il faut aussi ajouter la résistance aux antibiotiques qui est un problème majeur actuellement de santé publique. Bien, maintenant on va se prendre pour un camionneur américain en écoutant Dolly Parton, Country Road. Voilà, voilà. C'est rare la country à la radio. Enfin bon, ça arrive, la preuve. Alors, les huiles essentielles ou même les simples tisanes peuvent donc proposer des alternatives à la résistance bactérienne aux antibiotiques. La pathologie infectieuse est une indication majeure qu'on en juge pour l'efficacité du carvacrol dont je vous ai déjà parlé lors de l'émission précédente, le carvacrol de la sarriette ou de l'eugénol du clou de girofle ou des phénols de l'origan, qui sont des antibactériens majeurs beaucoup plus efficaces que les antibiotiques classiques. Il est également possible de proposer des traitements hormonaux pour combattre les troubles climatériques. Alors les troubles climatériques, j'explique, c'est les troubles qui sont dus à la ménopause, hein, pour les femmes, bien sûr. En alternative donc aux traitements hormonaux substitutifs, qui ne sont pas sans conséquences. Hein. Il y a des études qui montrent que les traitements hormonaux substitutifs sont dommageables parfois à la santé de la femme. Dans le domaine des psychotropes dont je vous ai déjà parlé, il existe également des traitements phytothérapiques qui n'entraînent pas de dépendance. Ça, c'est très intéressant. Pour éviter la pérennisation des traitements et la iatrogénie en général, les plantes peuvent être également d'un grand secours. Ce sont des produits à faible valeur ajoutée, mais qui, hélas, sont délaissés par les industriels, considérés donc comme des génériques, le plus souvent non remboursés et en vente libre. Ça n'intéresse pas les industriels parce que bon, c'est pas cher, hein, tout simplement. Ça ne permet pas de faire des marges confortables. Alors dans des domaines comme la rhumatologie, la gastro-entérologie ou la cardiologie, la dermatologie et les problèmes liés au stress, il existe également des plantes qui sont de fabuleux médicaments qui peuvent faire jeu égal avec l'allopathie classique et qui offrent très souvent d'excellentes solutions en termes d'efficacité, de sécurité et de coût minimal. Mais il serait trop long ici de passer en revue toutes les pathologies, car les plantes sont capables de les traiter toutes, sauf évidemment, comme je vous ai dit précédemment, les plus graves. Donc pour lutter par exemple contre le stress et la dépression, il existe des plantes qui sont dites adaptogènes, car elles préparent l'organisme à se défendre contre le stress. Le ginseng, c'est le plus connu. Mais il existe également le patoir, qu'on trouve un peu partout ici dans les terrains humides, au bord des ruisseaux. Il existe aussi l'échinacée pourpre, qui est le rudbeckia des jardiniers, qu'on trouve aussi dans les jardins. Il faut citer également l'aubépine, la mélisse, le coquelicot et le mélilot, qui sont des plantes qu'on trouve en Lozère, bien sûr, et partout, et qui sont des plantes efficaces dans ces pathologies. Les médicaments allopathiques sont globalement chers, alors que la thérapeutique à base de plantes sont plus économiques. On ne le répétera jamais assez. En effet, les modes de production sont moins onéreux, les matières premières sont peu ou pas transformées et leur coût iatrogène est minime aux doses utilisées. Donc les thérapies à base de plantes, prescrites avec compétence, génèrent donc des économies non négligeables. À une pathologie encore qui est en augmentation dans le monde moderne en France, c'est l'asthme. C'est une pathologie qui est en augmentation depuis les dernières décennies. Estimée il y a 20 ans entre 2 et 3 %, elle est aujourd'hui estimée de 5 à 7 %, ce qui est considérable. Et la pathologie asthmatique génère des coûts non négligeables et représente un enjeu de santé publique très important. Associée donc aux médicaments allopathiques, la phytothérapie permet de réduire les doses de médicaments, c'est ça qui est intéressant, et surtout de réduire le risque iatrogène, surtout chez les personnes âgées où les effets indésirables médicamenteux sont les plus graves. Elle permet parfois aussi de résoudre l'altération fonctionnelle respiratoire et surtout de répondre à l'objectif principal dans le traitement de l'asthme, qui est d'obtenir un bon contrôle de la maladie et d'éviter ou d'espacer les crises. Alors, dans ce domaine, citons le cyprès, le plantain, que tout le monde connaît, le cyprès aussi, l'estragon ou la balotte. À quelques exceptions près, l'assurance maladie ne prend correctement en charge que les médicaments chimiques, malheureusement. Les médicaments en phytothérapie ne sont pris en charge que par les mutuelles. Donc les patients à revenus modestes et qui parfois ne cotisent à aucune mutuelle n'ont souvent pas d'autre alternative que de se tourner vers les médicaments allopathiques. Les classes moyennes basses et les personnes âgées sont le plus souvent exposées aux aléas de l'existence, le chômage, la solitude, l'exclusion et donc aux pathologies qui en découlent. Il faut savoir que les patients qui consomment le plus d'antidépresseurs sont les patients qui habitent dans des régions à fort chômage et à forte précarité. Ceci explique peut-être cela. Alors pour l'année 2010, le montant des remboursements des seuls psychotropes s'élevait à 1059,3 millions d'euros, et selon la Caisse primaire d'assurance maladie, pour un montant de 1002 euros en 2008. Donc ça augmente. Les politiques de remboursement ont des effets pervers, notamment parce qu'elles incitent au report des prescriptions vers des médicaments encore remboursés, parfois plus chers et parfois plus néfastes en matière de santé, ce qui limite encore les économies possibles. Les effets pervers des politiques de déremboursement, l'automédication, parfois entretenue par les laboratoires ou par le fait des patients, entraînent un certain nombre de dérives allant à l'encontre du but recherché, la maîtrise des dépenses de soins. Plutôt que de s'enfermer dans des solutions technocratiques, ne vaudrait-il pas mieux, c'est la question que je me pose, ne vaudrait-il pas mieux de promouvoir le remboursement de la phytothérapie et considérer alors les préparations magistrales comme des génériques végétaux? Pourquoi se couper de l'inépuisable ressource de médicaments potentiels adaptés aux pathologies simples et courantes, qui est le pain quotidien du médecin généraliste?
Yellow is the color of my true love's hair in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her, uh-huh. That's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking. Mm-hmm. Of the time when I've been low.
C'était Colors de Donovan et on retrouve Philippe pour la conclusion.
L'utilisation des plantes apporterait un grand intérêt en matière écologique et une avancée aussi vers la transition énergétique et vers la fin, bien sûr, du tout chimique. Enfin, malheureusement, il est regrettable également que de nombreux conflits d'intérêts existent encore et que la Commission de Bruxelles soit l'antichambre des lobbies pharmaceutiques et au-delà du dépérissement du système de santé, nous soyons placés devant un fait accompli, la prise en charge privée de ce qui devrait être le bien commun, la santé. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain. Et comme toujours, vous pouvez réécouter l'émission sur le www.radiobartas.net. Salut !